Donc le professeur Safran donc, a été le chef de service à Genève pendant très longtemps en neuro-ophtalmologie et en ophtalmologie. Et nous avons la chance depuis quelques années qu'il nous aide sur tout ce qui est neuro-ophtalmologie et basse vision à l'Institut de la Vision.
Monsieur le professeur Sahel, le professeur Semelin, monsieur le professeur Berthaud, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'avoir été convié par le professeur Sahel d'apporter une petite contribution à l'enseignement qu'il donne dans cette institution prestigieuse. Et je voudrais lui exprimer toute ma reconnaissance, mon admiration aussi, renouvelée, pour l'extraordinaire œuvre qu'il a réalisée, qu'il continue à réaliser, avec la création de l'Institut de la Vision, avec les travaux exceptionnels qui y sont conduits, qui contribuent tellement au rayonnement de l'ophtalmologie française dans le monde entier. Dans les 25 minutes qui vont suivre, je vais vous inviter à partager quelques considérations avec moi sur un phénomène perceptif proprement extraordinaire qui est vécu par des sujets, par un certain nombre de sujets qui ont une vision normale, mais plus fréquemment chez des personnes, beaucoup plus fréquemment chez des personnes qui ont perdu la vision. Les synesthésies sont une manifestation extrêmement importante du point de vue clinique et sont également très importantes dans l'impact qu'elles ont eu au plan socioculturel, dans l'évolution de notre société, de notre culture et tout particulièrement dans l'évolution, dans l'histoire de l'art. Et je vais à certains moments m'y référer parce qu'il se trouve que les peintres, les artistes plasticiens, les peintres sont des observateurs privilégiés de ces phénomènes. Pour ceux des peintres qui vivent les synesthésies, il y en a un certain nombre et je vous mentionnerai, parce qu'ils nous donnent la possibilité, au travers de leur réalisation artistique, d'illustrer de percevoir ce que les personnes qui vivent des synesthésies ressentent. Vous avez certainement vous êtes certainement tous au courant de ce que depuis deux jours une exposition importante se tient au centre Georges Pompidou, qui est consacrée à Paul Klee, un peintre suisse et allemand important au début du XXe siècle. Et je vous invite à. Son œuvre était très fortement influencée précisément par des perceptions synesthésiques, et je vous invite à retenir les intitulés de ces deux peintures que je présente ici en exergue et sur lesquels nous revenons, mais ce sont des intitulés extrêmement explicites et on les comprendra encore mieux tout à l'heure. En guise d'introduction, je vais vous présenter très brièvement trois observations qu'il m'était donné de faire de personnes qui m'ont consulté en consultation neuro-ophtalmologique pour des phénomènes synesthésiques. Et ensuite, je vais définir plus précisément ce que sont les synesthésies et quelle est la structure qui sous-tend ces manifestations. Le premier sujet a environ 60 ans. Il est devenu aveugle parce qu'il a perdu la vision du fait d'une atteinte vasculaire des deux nerfs optiques. Et il m'a raconté en consultation qu'il était étonné de voir que lorsqu'il se brossait les dents, il avait il percevait des étincelles, et également dans d'autres circonstances. Et j'ai tapé dans mes mains pour voir si un phénomène auditif pouvait se transformer en phénomène visuel. Effectivement, il m'a dit, lorsque j'ai créé un bruit, j'ai généré un bruit brusque, en fait, il a perçu énormément de flashs lumineux. Notre patiente m'était adressée, hospitalisée de manière tout à fait inadéquate dans un service de psychiatrie. Elle était hospitalisée parce qu'elle avait raconté à ses médecins qu'elle voyait autour de personnes, et qu'elle avait toujours vu autour de personnes, autour du visage de personnes qui lui étaient particulièrement chères, des auréoles colorées. Et en fait, c'est une forme particulière de synesthésie où certaines personnes qui ressentent, qui vivent ce phénomène, perçoivent autour des visages, et parfois sur le visage lui-même de personnes pour lesquelles ils ont des affinités particulières, peuvent projeter par exemple une aura colorée, une couleur particulière, Et en fait, son hospitalisation était tout à fait inappropriée. C'est pour dire la variété de ces phénomènes, non pas de transposition sensorielle du son, par exemple, en vision, en couleur, mais d'une émotion, en fait, aussi en couleur. Troisième personne que je voudrais mentionner est une patiente, est un patient du professeur Sahel, que j'ai eu l'honneur de suivre dans le cadre des travaux que M. Sahel vient de mentionner dans son exposé, et qui nous a raconté que, bien que totalement aveugle, et bien que le phénomène que je vais mentionner se produise dans l'obscurité totale, il voit une silhouette de sa main lorsqu'il la déplace devant lui. Et en fait, c'est une transformation d'une sensibilité qu'on dirait proprioceptive, somesthésique, c'est-à-dire en fait une transformation, la sensation du mouvement et la perception de la position de la main qui est figurée dans son esprit par la perception de la silhouette de la main. C'est donc dire que une synesthésie du grec syn et aesthesis, qui c'est donc donc ensemble, la réunion de ensemble avec, et synesthésie c'est la sensation, en d'autres termes c'est la perception d'un phénomène qui associe des sensations de diverses natures. Eh bien, les synesthésies sont des phénomènes perceptifs inhabituels observés quand l'activation d'une modalité sensorielle, par exemple la vision, par exemple l'audition, par exemple le tact, par exemple une stimulation vestibulaire, induit également une sensation propre à une autre modalité. Alors voilà la schématisation de ce que serait une personne qui entend un concerto et qui entend effectivement ce concerto, la musique de ce concerto, mais qui peut également, et ça c'est une illustration d'une peintre synesthète, une personne qui ressent des synesthésies, une peintre synesthète s'appelle Carol Steen de New York, qui a figuré ce qu'elle voit au moment où elle entend un concerto de flûte. Eh bien, ce phénomène peut également être induit, non pas seulement, et on l'a mentionné il y a un instant à propos de cette femme qui voyait des auréoles lumineuses et colorées, certaines couleurs en particulier autour des personnes pour lesquelles elle avait de l'affection. Ce phénomène peut être induit également par un processus cognitif, ça veut dire par exemple mettre en œuvre un processus par exemple de réflexion mathématique, ou même simplement entendre le mot mathématique, ou entendre par exemple aussi le mot par exemple de nage. C'était par exemple récemment publié l'observation de quelqu'un qui pensait simplement à nager. Et cela induisait en lui une perception d'une couleur. Et s'il parlait de crawl plutôt que de nage papillon, c'était des représentations colorées différentes. Ça peut aussi être, comme je l'ai dit il y a un instant, un état thymique qui induit une perception colorée ou de diverses formes visuelles, ou un état émotionnel. Et je voulais mentionner il y a un instant. Mais ce qui est extrêmement important de noter, c'est qu'il s'agit de phénomènes qui sont involontaires, qui se produisent automatiquement chez le sujet et qui s'imposent au sujet, même si le sujet les rejette ou ne veut pas les ressentir, il ne peut pas ne pas les ressentir. Et l'autre chose qui me semble importante de mentionner aussi est que chez certains sujets, en particulier ceux qui ressentent cela de manière qui ont ce phénomène, qui développent ce phénomène de manière constitutionnelle, de manière génétique, ce ne sont pas en particulier les personnes qui sont aveugles, mais ceux qui présentent ces phénomènes de par leur nature, de par leur constitution, ils associent fréquemment une dimension, un ressenti émotionnel à la survenue de ces phénomènes. Et parfois même, ça peut être ça peut même être associé à une dimension pulsionnelle et à un besoin d'agir, parfois d'agir en rapport avec cette synesthésie, parfois tout court un besoin d'agir. Et en ce sens-là, l'observation de certains peintres qui sont synesthètes disent que lorsqu'ils perçoivent ces phénomènes synesthésiques, ils ressentent un besoin extrêmement fort de représenter dans des œuvres picturales ce qu'ils ressentent. Et même, par exemple, s'ils sont en train de dessiner le portrait d'une personne dont la figuration, dont la perception est un tout petit peu changée, modifiée par la dimension émotionnelle, par exemple, qui va modifier la couleur de son visage ou induire d'autres phénomènes associés, eh bien, il ressent un besoin extrêmement fort de représenter ce perçu tel qu'il le perçoive, tel qu'il le perçoive. Et Marc Chagall, qui certainement aussi était synesthète, et je n'aurai pas le temps de beaucoup en parler, mais il a fait des observations extrêmement intéressantes. Il a dit qu'il reçoit un besoin impérieux de ressentir les images telles qu'il les ressent en lui-même. Voilà donc cette dimension émotionnelle et d'entraînement à l'action qui peut être associée aux synesthésies. Alors, la question que l'on peut se poser, et que beaucoup de personnes qui ressentent et qui réfléchissent sur ces phénomènes se posent, est-ce que la synesthésie est une forme d'imagerie mentale ? Ce n'est pas le cas. En fait, l'imagerie mentale est un processus de figuration que l'on peut induire par le fait, par exemple, de se dire, voilà, est-ce que je me trouve, par exemple, si c'est une imagerie mentale, par exemple, spatiale, si je me trouve à tel endroit sur une place, est-ce que je vais m'orienter dans telle direction ou telle autre par rapport à un bâtiment que je pourrais voir, quels sont les bâtiments que je verrai sur ma gauche, sur ma droite, etc. C'est quelque chose qui est induit, que l'on peut maîtriser, alors que la synesthésie est quelque chose qui s'impose. En revanche, une image mentale induite par ce processus d'imagerie mentale tel que je l'ai décrit peut elle-même induire une synesthésie. Je parlais tout à l'heure de la réflexion sur le simple concept de mathématiques qui peut induire des phénomènes synesthésiques associés à la réflexion sur la mathématique, par exemple une couleur, ou bien l'imagerie mentale se rapportant à une situation émotionnelle forte, elle peut induire une couleur particulière. Pour reprendre l'exemple de Marc Chagall, il parlait de ce qu'il voulait. Il voulait parfois se sentir plus bleu, par exemple, pour se sentir bien. Par exemple, Franz Liszt a demandé, et cela a été rapporté par de nombreux observateurs, a demandé à des artistes qui étaient en train d'interpréter une œuvre de jouer plus bleu, par exemple. Bon, peut-être que parce qu'il le ressentait comme cela, et puis pour lui, c'était une métaphore, d'une certaine manière, et probablement beaucoup de métaphores. Oui, c'était une métaphore qui c'était l'identification, le bleu, et un sentiment de force ou de je ne sais pas ce qu'entendait Liszt exactement quand il disait plus bleu, en fait. Je ne sais pas exactement. On ne sait pas exactement, mais le fait est qu'il y a ce lien qui se crée entre certaines synesthésies, cette manifestation synesthésique qui sont propres et différentes pour chaque personne concernée, d'ailleurs, en fait. Et en fait, ces enfants, si ce sont des enfants, par exemple, qui l'ont de manière constitutionnelle, ils s'en rendent compte tout à coup, par exemple, à l'école, en général, à l'âge de 4, 5 ou 6 ans, où ils parlent à l'école à des enfants, et ils se rendent compte que finalement, ce qu'eux ressentent ne sont pas ressentis par d'autres, et à ce moment-là, cela crée un certain nombre de problèmes, peut-être que je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui, qui font qu'ils se restreignent, qu'ils se referment, et peut-être qu'ils hésitent beaucoup à mentionner, à parler de ça. C'est très peu de synesthètes, finalement, en parlent librement parce qu'ils ont l'impression que peut-être ça pourrait être interprété de manière inadéquate par des amis, par la famille même. Mais en fait, bien sûr, ça n'a rien d'inquiétant en soi. Mais c'est tout un contexte particulier qui peut être créé par l'apparition de ces synesthésies. En fait, il y a donc deux formes principales de synesthésie. L'une est celle des synesthésies constitutionnelles, j'ai un tout petit peu mentionné il y a un instant, enfin, congénitale, héréditaire, le plus souvent, et j'y reviendrai. Et la deuxième forme est la forme des synesthésies dites acquises. Alors, pour ce qui concerne les synesthésies visuelles de loin, bien sûr, les synesthésies visuelles acquises, le plus fréquemment, sont ressenties par des personnes qui sont déprivées de vision. Alors, tout à l'heure, je vous ai indiqué le phénomène de sound-induced photism, des photismes, donc des phénomènes visuels induits par le son. Après l'installation d'un déficit visuel, je vous ai raconté tout à l'heure le patient qui voyait des étincelles ou des flashs, ou bien au claquement des mains, ou bien lorsqu'il se brossait les dents, c'est-à-dire qu'il transformait une information tactile en fait en une information visuelle. Et puis, je vous ai parlé de ce patient que nous avons vu à l'Institut, ce sujet aveugle qui, entre guillemets, voyait ses mains. Et puis, des phénomènes visuels ont aussi, bien sûr, été décrits chez des personnes qui ont consommait des substances hallucinogènes, et on le sait déjà depuis très longtemps, et je vous renvoie éventuellement à cette référence historique, mais c'était bien décrit aussi par Michaud et par d'autres ultérieurement. Et puis, il y a il se peut également que certaines lésions cérébrales qui apparaissent, qui sont situées sur le trajet d'afférences sensorielles, par exemple au niveau du thalamus, on sait que le thalamus est un lieu où la plupart des afférences sensorielles par lesquelles passent et où sont régulées de nombreuses afférences sensorielles cérébrales, peut également induire des synesthésies. Voilà par exemple l'observation d'un patient qui a eu un AVC thalamique et qui voyait et pour lequel quand il voyait une couleur bleue, il entendait une musique, il ressentait également d'autres sensations orgasmiques ou autres. En fait, les synesthésies peuvent concerner n'importe quelle sensation. Ça peut être une sensation tactile, une sensation olfactive, une sensation gustative, une émotion. En fait, tous les phénomènes perçus par notre système nerveux central peuvent être impliqués ou non chez certains patients. Et puis, il y a une observation très intéressante qui vous montre l'intérêt. L'intérêt de synesthésie au plan thérapeutique. Une observation a été publiée il y a 2 ans, un peu 3 ans maintenant, enfin un peu plus, même déjà 4 ans, 5 ans, dans la revue PLOS, c'est une observation de Boston, où des patients aveugles ont été invités à ressentir certaines formes sur une structure piezoélectrique. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que sur les 18 personnes qui ont été concernées, 7 d'entre elles, après 3 mois d'expérience, ont commencé à visualiser, à fortement visualiser les formes qu'ils exploraient des mains. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ces patients, on a observé une activation électroencéphalographique de la zone, mais c'est très simplifié, comme je fais la présentation que je vous fais là, la zone qui traite l'information visuelle. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces patients ont dit à ce moment-là qu'ils perdaient au moment où ils voyaient les formes se dessiner devant eux, ils perdaient la sensation tactile qu'ils étaient en train d'utiliser. Donc il peut y avoir aussi un conflit ou une rivalité entre diverses sensations qui se produisent. Alors, comment l'expliquer ? Vous savez que les diverses structures cérébrales. Tout à l'heure, le professeur Sahel a très joliment montré comment dans le cerveau, il y a une carte de zones qui traite plus l'information visuelle, plus l'information tactile, plus l'information auditive. Et ce sont des zones qui maintenant ont été bien démontrées comme étant non seulement capables de traiter ou non seulement traitant une information sensorielle particulière, mais souvent est associée au traitement d'autres modalités sensorielles. Par exemple, la région occipitale, dévolue à la fonction visuelle, traite également des informations auditives, tactiles, vestibulaires certainement aussi. Ça n'a pas été assez étudié, mais cela a été quand même déjà montré aussi, parce que, comme le souligne souvent le professeur Berthaud, la vision et la fonction vestibulaire sont vraiment une seule fonction sensorielle. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si la fonction visuelle est, comme vous le voyez sur ce schéma, supprimée, l'afférence visuelle est supprimée, eh bien, le lobe occipital est beaucoup plus activé par l'audition et le tact qu'il n'était chez un sujet qui était normalement voyant. Et comme tout à l'heure, le professeur Sahel l'a dit, je ne vais pas revenir sur ce thème. En fait, le lobe occipital, la région dite du cortex visuel, en fait, intervient également pour la mémoire verbale et le langage et d'autres fonctions. Ce qui est intéressant aussi, comme l'a mentionné il y a un instant le professeur Sahel, c'est qu'à l'Institut de la Vision, avec l'un de nos doctorants, le professeur Sahel et moi, en collaboration avec M. Amédi, en fait, il s'est avéré que chez les sujets qui sont devenus aveugles du fait d'une myopathie pigmentaire, eh bien, on a observé une augmentation des connexions fonctionnelles avec l'aire de Broca, qui traite le langage, qui est déjà connectée à la vision chez des sujets qui voient bien, mais elle est connectée différemment chez les sujets qui deviennent aveugles. Les formes constitutionnelles sont souvent génétiques, 2 à 5% de la population les ressentent, mais près du quart des sujets qui se consacrent aux beaux-arts. Et il y a de très nombreuses formes qui ont été décrites. Je ne vais pas les détailler parce que le temps passe. Je voudrais juste donner un exemple, celui de Vassili Kandinsky, qui était un très fort synesthète et qui a rapporté dans les textes qu'il a publiés. Il y a un texte merveilleux qui a été publié dans Folio, et spirituel dans l'art, et particulièrement dans la peinture, qui raconte comment Kandinsky percevait des lignes sauvages, presque folles, disait-il, et percevait toutes sortes de phénomènes visuels lorsqu'il entendait une œuvre d'art, en particulier des œuvres de Wagner, disait-il. Et en fait, c'est ce qu'il représentait dans ses peintures qui s'appelaient compositions ou qui avaient d'autres termes et qui, en fait, ont joué un rôle essentiel dans l'initiation de la période dite de l'art abstrait. En fait, ces œuvres abstraites figurent des perçus synesthétiques. Et Paul Klee a dit que le visible n'est qu'un élément isolé, il existe d'autres vérités latentes en surnombre. Et c'est ce qu'il montre aussi, voilà, comment il a peint un poisson rouge, parce que très vraisemblablement, cette notion de poisson lui a amené à percevoir la couleur jaune. Et ce n'est pas étonnant qu'une exposition de Paul Klee a été présentée en 2011, ici à Paris, à la Cité de la musique. Et que Pierre Boulez, qui était fasciné par Klee, et ce n'est certainement pas un hasard, a écrit l'intérêt qu'il a apporté à Paul Klee. Pierre Boulez lui-même aussi était fortement synesthète. J'ai parlé de Chagall, mais je vais pas développer. Je vais simplement dire que des recherches ont été effectuées pour savoir s'il y avait des structures nerveuses sous-jacentes à ces phénomènes synesthésiques. Il a été montré par certains que l'architecture cérébrale est globalement beaucoup plus connectée chez les synesthètes que chez les sujets non synesthètes, et également que, par exemple, le faisceau fronto-occipital inférieur est beaucoup plus saillant, beaucoup plus important chez les synesthètes que chez d'autres. Mais des revues critiques récentes laissent planer un doute sur la significativité de ces diverses observations, donc c'est un domaine encore qui est très controversé. Pour ceux qui seraient intéressés encore à ce sujet, je me permets de mentionner une publication récente de notre institution qui était publiée dans Current Opinion in Neurology et dont vous avez ici la référence. Voici, chers collègues et amis, mesdames et messieurs, en quelques mots, le message que je souhaitais, les considérations que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect extrêmement important du perçu chez des personnes dépourvues de vision, mais également chez de nombreux sujets normaux qui ont une vision normale. Tout ça pour vous montrer aussi que le perçu de certains patients, un perçu inhabituel de certains patients dépourvus de vision, en fait, se développe sur la base de structures physiologiques de l'organisme et qui sont en fait des phénomènes physiologiques qui sont ressentis ou perçus, qui se développent de manière beaucoup plus intense du fait de la désafférentation qui est la leur. Merci beaucoup.